Donc bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer réellement notre travail, je voulais aussi vous remercier de la part de toute la promotion de Master 1 d'être venu ici aujourd'hui et pour l'intérêt porté à notre travail et à ces questions qui nous tiennent énormément à cœur. Donc, pour répondre à la commande de la Fondation pour le logement des défavorisés, nous nous interrogeons sur la place donnée aux logements sociaux dans les villes de l'Hérault. Donc tout ça au regard de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui impose, comme ça va être expliqué plus en détail, un minimum de logement social à certaines communes.
Donc l'enjeu pour nous en tant qu'étudiants, lors de cet atelier et de cette commande, ça a été de comprendre les mécanismes de production du logement social dans l'Hérault, après 25 ans d'application de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU. Le partenariat que nous avons mené entre notre master d'urbanisme et la Fondation pour le logement des défavorisés s'inscrit dans un contexte de double crise du logement. Premièrement, une crise quantitative avec une augmentation de plus de 1 500 000 nombre de demandeurs de logements sociaux entre 2002 et 2024, mais aussi une crise qualitative avec une augmentation du nombre de personnes mal logées en France. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 4 millions. Ce contexte de crise du logement n'est pas récent. Effectivement, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, qui a été adoptée en décembre 2000, prenait déjà en compte ces enjeux. C'est à cette période que l'État a donc pris en main cette notion, car la notion centre de la loi SRU, c'est la dimension de la solidarité, qui passe à travers toutes les dimensions de l'aménagement. On va citer ici le ministre, donc l'ancien ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, qui nous a dit qu'il faut que progressivement cessent ces dualités d'espace où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Isabelle Berry Chikawi. Voilà, je suis donc je m'exprime en tant que co-responsable du master urbanisme et aménagement de notre université. Donc, on a plein de personnes à remercier parce que si ce travail a été possible, c'est que les étudiants sont partis sur les territoires, sont allés à la rencontre d'un grand nombre de personnes qui les ont accueillis et qui ont accepté d'échanger avec eux, d'échanger leur savoir, leurs connaissances, leurs expériences à la fois professionnelles mais aussi vécues de ces territoires-là. Donc, on remercie toutes ces personnes. Donc, il y a les services de l'État, des bailleurs sociaux, des services techniques de communes, des élus, mais aussi des associations, des habitants qui ont reçu nos étudiants. Et j'en profite aussi pour remercier notre université de nous donner cette possibilité de construire des partenariats qui articulent à la fois la formation, la pédagogie, des articulations qui sont pour nous dans notre formation extrêmement importantes. Et ça nous a également, nous côté équipe encadrante, ça nous a permis d'aborder avec les étudiants les questions d'inégalité, des questions de pauvreté, des questions de justice sociale, des questions de solidarité urbaine, d'urbanisme solidaire. Pour notre formation, c'est aussi une question capitale, ces questions de solidarité urbaine, ces questions de vulnérabilité, d'accès aux droits, etc. Ce sont des questions extrêmement importantes au cœur de notre formation de master. Hein. Donc c'est un master qui s'appelle Urbanisme et Aménagement et qui a un petit nom, on va dire. Ce petit nom, c'est Urbanisme, Projets urbains et Modèles alternatifs. On a une préoccupation d'essayer d'amener les étudiants et nous-mêmes, on réfléchit avec les étudiants sur les pratiques possibles, pratiques alternatives de l'urbanisme. Et une manière de penser, de faire la ville autrement, c'est justement de donner une place dans la ville aux personnes en situation de vulnérabilité, de les considérer comme des citadins et des citoyens à part entière. On voudrait également, on s'adresse du coup là à nos étudiantes et à nos étudiants, pour dire qu'ils se sont vraiment emparés de cette mission, de ces questions qu'ils ont pris à bras le corps. Ils les ont abordées à la fois sur le plan scientifique, sur le plan réglementaire, sur le plan technique, sur le plan de l'urbanisme opérationnel. Donc ils ont fait un gros travail et on veut les féliciter et on les félicite pour ce travail. Et on tenait donc non seulement à les féliciter mais aussi à les remercier vivement. On vous remercie vivement et publiquement. Ça c'est important aussi.
Je suis Sylvie Chambon, je suis la directrice de l'agence Occitanie de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre. On a fait un travail, alors je vais expliquer pourquoi, comment, mais ce travail avec le Master 1, c'est un peu une première et on a trouvé cet échange très très chouette parce qu'effectivement, les étudiants sont hyper dynamiques, ils ont été hyper réactifs à toutes nos sollicitations, nos questions qui n'étaient pas toujours très claires, qui étaient souvent très techniques, voilà. Donc merci à tous les étudiants du Master, merci à tous les enseignants. Juste pour vous dire aussi que nous, chaque année, on fait un éclairage régional hein, sur l'état du mal logement. Cette année, on avait décidé de ne pas faire un éclairage sur le même modèle, on avait décidé de faire les choses différemment. C'est pour ça aussi qu'on s'est rapproché du master en se disant, voilà, on dit qu'on traverse une crise exceptionnelle du logement. Et quand on dit ça, aujourd'hui, en fait, on ne dit pas grand-chose parce qu'effectivement, ça fait des années que ça dure et que ça ne bouge pas beaucoup. Et dans notre région, peut-être encore plus que dans d'autres, cette crise, elle est vraiment très importante. Et on a choisi un angle qui est un peu un choix arbitraire de notre part, mais on a choisi de regarder ce qui se passait sur le département de l'Hérault, dans des communes qui étaient déficitaires SRU. Alors, les étudiants vont vous expliquer SRU, comment, pourquoi, ce que c'est. Mais en tout cas, on a choisi, nous, d'aller regarder 5 communes sur 3 territoires différents. Métropole de Montpellier, très périphérique et plus rurale autour de la métropole, et un territoire plus proche du littoral. Toutes ces communes sont déficitaires, avec pour chacune d'entre elles des arguments mis en avant qui sont différents, et on a voulu aller voir si ces arguments des élus étaient objectifs ou pas, quels étaient réellement les freins, comment on pouvait ou pas les contourner, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Donc là, les étudiants vont vous présenter le travail qui a été fait. Et puis, on fera des petites pauses à la fin de chaque territoire, donc 3 fois, pour vous donner, nous, nos préconisations, un peu comment nous, notre regard de la Fondation pour le logement, qu'est-ce qu'il est. Voilà.
Place aux étudiants qui démarrent leur présentation.
Donc je m'appelle Katia et je suis accompagnée de mes camarades, donc Clara, Camille, Luce, Tom, Dani et là-bas Ludovic et Titouan. Donc nous sommes le groupe d'Acte, donc on va passer maintenant aux planches terrain. Donc la ville d'Acte est une ville littorale et populaire qui a la particularité d'être composée de 3 visages, donc 3 pôles. Le premier, le centre-ville, le Gros d'Acte et le Cap d'Acte. Et donc c'est dans ce contexte de ville littorale et populaire en pleine transformation qu'on s'est demandé quelle était la place du logement social.
Et donc effectivement, on se pose cette question puisque la ville d'Acte fait l'objet d'un déficit quantitatif de logements sociaux. Cela signifie qu'elle ne produit pas suffisamment de logements sociaux par rapport à ce que lui impose la loi. En 2024, la commune d'Acte avait produit 9,2% de logements sociaux sur les 25% qui lui sont imposés. Mais il faut le rappeler que 9% c'est moins de la moitié de ce qu'elle devait avoir produit, donc ça alarme sur l'urgence de s'investir dans la production de logements sociaux à Acte. Une deuxième observation qu'on peut tirer de cette carte, c'est le type de conventionnement qui revient le plus souvent. Donc, quel est le type de logement social qui apparaît le plus? Donc, on remarque que ce sont les logements sociaux PLUS, donc c'est du logement standard. Donc, cela signifie qu'en fait, on ne s'adresse pas aux publics qui sont les plus précarisés.
Et justement, les plus précarisés, ils sont logés dans des PLAI, localisés exclusivement au centre-ville. Et on se rend compte que ces logements, ils sont dans des résidences qui ont les plus mauvais diagnostics de performance énergétique. Donc en fait, ça va encore une fois montrer que les populations, la condition de vie des populations les plus précaires n'est pas prise en compte par les politiques.
Alors, comme dit précédemment, Acte, c'est une ville qui est ambivalente. Et au regard de la planche précédente, nous avons identifié 2 réalités d'attractivité. Une première qui est résidentielle et une deuxième qui est touristique. Ainsi, nous avons aussi pu les croiser avec les stratégies politiques qui étaient mises en place. Pour ce qui est du constat, du coup, sur les 2 pôles littoraux comme présenté précédemment, pour ce qui concerne, du coup, spécifiquement le Gros d'Acte, donc il s'agit d'un ancien village de pêcheurs, qui se caractérise par une forte proéminence d'habitat haut de gamme, du coup, qui est constitué d'habitat individuel, donc de maisons avec jardin. Il n'y a à ce moment-là une seule résidence sociale dans ce pôle, qui comporte les seuls 18 logements sociaux de ce pôle, et il n'y a actuellement aucun projet en cours, ce qui témoigne donc d'une volonté politique de préservation de ce pôle en l'état et dans ses fonctions.
L'autre pôle littoral est donc le Cap d'Acte, donc la station balnéaire emblématique de la mission Racine. Ce pôle se caractérise par un fort taux de résidences secondaires, ce qui est un problème car ça occupe un foncier important qui n'est donc pas utilisé pour produire du logement social ou du logement destiné à des habitants permanents. Donc dans ce contexte, on peut s'interroger sur la place qui est laissée sur ces pôles littoraux aux habitants et habitantes permanents, au logement social et aux populations les plus précaires.
En conclusion, on observe qu'il y a un manque de volonté politique à construire des PLAI qui est le réel besoin de la population. Néanmoins, ils construisent du logement social, mais plutôt pour des, ben déjà pour éviter de trop forts prélèvements financiers qui s'accumuleraient, qui augmenteraient. Et ils répondent plutôt à la demande des classes moyennes en construisant du PLS, mais toujours pas dans les proportions qui seraient nécessaires. Enfin, on comprend et on a pu observer que ces différents problèmes, ils poussent les personnes précaires et les plus pauvres à se tourner, et elles sont contraintes d'aller vers le logement dégradé, ce qui entretient ce phénomène en réalité, sur du bâti dégradé ou des logements qui n'ont pas été rénovés. On estime que ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas acceptable surtout de ne pas répondre politiquement à ces problématiques de logement pour les administrés de cette commune. Je vous remercie de nous avoir écoutés.
Avant de passer à la prochaine, au prochain territoire, avant de passer au prochain territoire, juste peut-être deux mots du regard de la Fondation sur ce travail sur Agde. Alors merci, parce que c'est vrai que l'analyse elle est très pertinente. On connaît quand même dans les grandes lignes la position, en tout cas de l'ancien maire d'Agde. Pour nous, c'est effectivement la commune qui est la plus emblématique des communes qui refusent de produire du logement et qui affichent ouvertement leur volonté de payer des pénalités plutôt que de produire. Donc nous, ce qu'on se dit et la façon dont on le regarde, c'est que de toute façon, un moment, pour ces communes qui affichent aussi clairement leur position, la seule réponse, c'est l'action coercitive. Et l'action coercitive, c'est l'action de l'État, c'est l'action du préfet, pour carencer plus ces communes à partir du moment où elles ne font pas l'effort de travailler avec des bailleurs sociaux et qu'elles n'utilisent pas l'ensemble des outils qui sont mis à leur disposition. Donc la réponse, ça peut être de carencer beaucoup plus ces communes. Agde, on voit bien qu'ils sont passés en 2019 à 1 million d'euros de pénalités. Depuis 2019, on est resté à 1 million d'euros de pénalités, alors que la commune est passée de 5 à 9% de logement social entre 2008 et 2022. Donc on voit bien que ça ne suffit pas pour inciter les élus à faire mieux. Et alors quand même, pour avoir un petit point positif, parce que Agde fait quand même des choses, il faut quand même dire que nous, en tout cas, on accompagne actuellement avec Héros Logement et le département un projet de production de logement social sur Agde, et que puisque la Fondation participe financièrement à la production de ce projet, on avait demandé à la commune d'Agde de financer, de co-financer ce projet avec nous, avec le département, avec l'État. Et en discutant un peu fortement à un certain moment, la ville a accepté d'apporter sa contribution sur ces pénalités et ces rues qu'elle récupérera donc dans 2 ans. Donc c'est un premier pas, on est loin de l'objectif voulu, mais je pense que voilà, on va poursuivre. Merci.